Merci d'être avec nous sur RFI. Il est minuit à Paris, 22h temps universel.
24h en France.
Bienvenue dans votre rendez-vous quotidien d'actualité française. On est ensemble pour la prochaine demi-heure.
Mathis Limano.
La garantie pour tous les grands courants politiques d'être représentés. François Bayrou repart à l'assaut de la proportionnelle. Il débute une série de consultations à Matignon. En premier, c'était le Rassemblement National reçu ce mercredi. Mais si sa chef de file Marine Le Pen plaide également pour ce mode de scrutin, au Sénat, vous allez l'entendre, les oppositions sont nombreuses. À suivre, la croissance économique presque à l'arrêt en France. Le PIB a progressé de 0,1% au premier trimestre. Dans le même temps, le gouvernement entend intensifier ses efforts budgétaires. Ce jeudi, c'est le 1er mai, la fête des travailleurs. 100 à 150 000 personnes sont attendues partout en France. Et puis, faut-il interdire les écrans aux enfants de moins de 6 ans ? Des experts alertent sur leur effet néfaste pour le cerveau des enfants.
RFI.
Début d'une série de consultations à Matignon, donc François Bayrou reçoit les forces politiques pour parler proportionnelle. D'abord le RN ce mercredi, cheval de bataille du Premier ministre depuis longtemps. Ce mode de scrutin divise, notamment au Sénat, où il a été interpellé par les sénateurs Les Républicains, opposés à l'instauration de la proportionnelle aux législatives. Charlotte Urien-Tomaca.
Revoilà la proportionnelle, mais le débat semble mal engagé à la Chambre haute. Majoritaire au Sénat, les Républicains y sont farouchement opposés. Mathieu Darnaud, président du groupe.
Pourquoi vouloir de ce poison électoral dans une période où les tensions géopolitiques exacerbent les difficultés ?
Mais malgré le rejet de la droite, le Premier ministre persiste et a logiquement contredit son interlocuteur, François Bayrou.
Est-ce que j'ai besoin de rappeler que le scrutin proportionnel, c'est celui par lequel est élu 75% des sénateurs ? Et je n'ai pas le sentiment que ce mode d'élection ait suscité l'instabilité.
Autre argument pour le Premier ministre.
Tous les pays européens ont ce mode de scrutin. La proportionnelle, c'est le scrutin du pluralisme.
Alliés des Républicains au Sénat, les sénateurs centristes sont pour la plupart également opposés au retour de la proportionnelle. Jean Ingret.
On a quand même d'autres sujets beaucoup plus graves. Les Français, je pense, n'ont rien à faire de la proportionnelle. Vous avez parfois aussi, avec la proportionnelle, un phénomène de passagers clandestins où des gens sont sur des listes parce que tout simplement ce sont de bons cireurs de chaussures qui n'ont pas forcément d'ancrage dans les territoires.
Seule voie de passage possible pour un accord avec les LR, inclure dans le texte de loi sur la proportionnelle le retour au cumul des mandats.
Charlotte Urien-Tomaca sur la proportionnelle, combat de longue date donc de François Bayrou. Le Premier ministre qui ouvre la voie à une indemnisation élargie des harkis. 6000 de ces Français musulmans recrutés pendant la guerre d'Algérie puis abandonnés par la France vont pouvoir prétendre à une indemnisation. Un pas de plus pour la mémoire et la justice, a écrit François Bayrou sur X. Depuis 2022 et la création de la commission pour les harkis, ce sont 27 000 d'entre eux qui ont été indemnisés. Une progression d'à peine 0,1% du PIB au premier trimestre. La croissance économique de la France est en panne, alors que le gouvernement entend intensifier ses efforts budgétaires. 50 milliards d'euros cette année, puis 40 milliards de plus l'an prochain. Problème, aucun moteur ne soutient vraiment l'activité. C'est ce que estime Charlotte de Montpellier, macroéconomiste chez ING.
On a eu pendant plusieurs années les dépenses publiques qui ont été un moteur. Ce n'est plus le cas ici en 2025 parce que la politique budgétaire est plus restrictive et parce qu'il y a ces recherches d'économie sur le budget de l'État, compte tenu des dérapages du passé. Les investissements continuent à être en difficulté et à diminuer trimestre après trimestre. Et la consommation des ménages qui a soutenu l'activité en 2024 soutient beaucoup moins et en fait est en stagnation à l'heure actuelle. Donc à ce stade, on a effectivement très peu de moteurs pour l'économie française. Les effets des droits de douane supplémentaires ne sont pas encore vraiment visibles dans les données d'activité économique, mais sont très clairement visibles dans les données de sentiment auprès des entreprises, auprès des ménages. À ce stade, je ne pense pas qu'on doive tabler sur une récession à venir pour l'économie française. C'est plus une histoire de stagnation.
La macroéconomiste Charlotte de Montpellier avec Agnieszka Kumor. Jennifer, placée en liquidation judiciaire, la marque de prêt-à-porter féminine invoque l'explosion des coûts, la baisse du pouvoir d'achat et la concurrence internationale toujours plus agressive. Jennifer sortait d'une période de redressement judiciaire. Un millier d'emplois sont menacés. Chez le groupe franco-italien ST Micro Electronics, c'est un millier de départs volontaires qui ont été annoncés ce mercredi. Une information qui a fait bondir les syndicats. Le groupe, qui produit notamment des semi-conducteurs, compte 12 000 salariés en France. La lutte des travailleurs et travailleuses célébrée ce jeudi 1er mai. Cette année, le mot d'ordre, c'est la lutte contre l'extrême droite pour les libertés et la justice sociale. Si les revendications au niveau national portent sur la réforme des retraites et les plans sociaux, l'intersyndicale formée par la CGT, Solidaire et FSU ont invité des syndicats internationaux. Ils seront présents dans les cortèges et ce, compte tenu du contexte mondial qui pèse sur les travailleurs. Sophie Binet, la secrétaire générale de la CGT.
C'est un 1er mai qui est beaucoup plus marqué par la dimension internationale parce que on le voit chaque jour, la situation internationale, elle pèse très lourd, à la fois avec un contexte de guerre très choquant en Ukraine comme en Palestine. Et donc ce 1er mai, nous manifesterons pour affirmer notre solidarité en direction de nos frères et nos sœurs ukrainiennes, ukrainiens, palestiniens, palestiniennes, pour exiger une paix juste et durable en Palestine comme en Ukraine. Et puis ce contexte international, c'est le contexte de guerre commerciale que Trump et Elon Musk sont en train de mettre en place. Dans ce contexte-là, ce que nous voulons montrer, c'est une internationale des travailleurs et des travailleuses, une internationale ouvrière. Nous ne laisserons pas mettre les travailleurs et les travailleuses en opposition sur des critères de nationalité, de religion, de couleur de peau. Nous sommes unis, nous avons des intérêts communs, nous aurons les mêmes revendications dans le monde entier, nous serons rassemblés pour exiger la paix et la justice sociale.
La secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet, avec Anne Verdaguet. Entre 100 et 150 000 personnes sont attendues partout en France ce 1er mai. Le suspect du meurtre d'Aboubacar Cissé pourrait être remis à la France dans 2 semaines. Pour le moment, il est incarcéré en Italie, pays de sa fuite et de sa reddition. Vendredi dernier, Aboubacar Cissé, jeune malien de 22 ans, a été assassiné dans la mosquée d'Alès. Après les députés, ce sont les sénateurs qui ont observé un moment de recueillement ce mercredi.
24 heures en France.
RFI minuit 7 à Paris. Venons-en à cette angoisse chez de nombreux parents. L'impact des écrans sur les enfants. Faut-il les interdire, notamment chez les moins de 6 ans? C'est ce que préconisent en tout cas plusieurs experts de la santé dans une tribune. Les précisions de Baptiste Coulon.
Ni la technologie de l'écran, ni ses contenus ne sont adaptés à un petit cerveau en développement. Dans leur tribune, médecins et pédiatres disent constater les dégâts provoqués par une exposition des plus jeunes aux écrans. Agnès Langlard est la présidente de la Société française de pédiatrie, signataire du texte.
Sur l'apprentissage, sur le comportement, sur le développement intellectuel, sur le sommeil, sur l'interaction sociale avec les autres, ça a été clairement démontré. Plus on est exposé, plus on a une altération de ces différents domaines.
En France, le rapport des plus jeunes aux écrans est régulièrement l'objet de colloques, d'assises. Dernière en date, les assises de la pédiatrie et de la santé de l'enfant, organisées par le ministère de la Santé fin 2023. Depuis, peu d'avancées, regrette Agnès Langlard.
Maintenant, il faut mettre en œuvre, il faut mettre en action. En fait, il y a une différence entre l'impact des écrans sur la santé des enfants et finalement des mesures ou des messages qu'on a du mal à faire passer. L'évolution des technologies, l'évolution des portables, l'évolution des contenus est tellement rapide qu'il faut derrière se mettre aussi en marche très rapidement et être capable de réagir.
Agnès Langlard espère désormais que cette tribune trouvera un écho auprès des décideurs politiques.
Les précisions de Baptiste Coulon. Après la victoire arrachée par le PSG à Arsenal, l'autre demi-finale de la Ligue des Champions ce mercredi soir, Barcelone-Inter de Milan, les deux équipes se quittent dos à dos dans un match prolifique, 3-3. C'est l'international français et joueur milanais Marcus Thuram qui a ouvert la marque. Divorcé pour mieux se retrouver, DAZN, principal diffuseur de la Ligue 1 et la Ligue de football professionnel, se dirige vers une fin de contrat. Il courait pourtant jusqu'en 2029, mais la plateforme britannique se dit prête à investir dans le projet de chaîne dédié à la Ligue 1 que la LFP appelle de ses voeux. Et puis de la natation dans votre journal, c'est le Français qui a triomphé lors des Jeux Olympiques de Paris 2024 et le revoilà dans les bassins pour une nouvelle saison. Léon Marchand se remet à l'eau ce jeudi aux États-Unis pour une compétition de reprise. Le quadruple champion olympique de 22 ans participe à un meeting en Floride, l'occasion pour lui de s'aligner sur des épreuves de nage libre où il a très peu d'expérience, mais désormais une grosse envie de briller. Christophe Diremzian.
Fort Lauderdale, 700 inscrits, pas mal de vedettes internationales et parmi elles, un Léon Marchand en quête de repères et de nouveaux défis. Désormais résident au Texas, mais toujours sous la conduite de Bob Bowman, le Toulousain va enchaîner 5 courses en 3 jours. S'il maîtrise parfaitement 3 d'entre elles, 200 mètres brasse, 200 et 400 mètres quatre nage, avec l'or à chaque fois au JO, il va sortir de sa zone de confort sur 200 et 400 mètres nage libre, où ses meilleurs chronos sont loin, très loin des temps de référence mondiaux. Mais c'est le but, innover, s'adapter aux contraintes du crawl à l'aube d'un nouveau et long cycle jusqu'aux Jeux de Los Angeles, Léon Marchand avait besoin de ce renouvellement après son été 2024 aussi incroyable sportivement que mentalement épuisant. Par la suite, ses étapes de Coupe du Monde en Asie en octobre l'avaient vidé de ses dernières doses d'énergie. Pas de championnat du monde en petit bassin en décembre. Le mois suivant, il s'envolait pour un trimestre en Australie. Une coupure active, une expérience avec Dean Boxall, entraîneur réputé de nage libre, pour commencer à mettre l'accent sur ses courses sur lesquelles il se testera peut-être lors des championnat de France en juin et des mondiaux de Singapour fin juillet.
À 43 ans, Nicolas Mahut tire sa révérence. Le tennisman français a annoncé prendre sa retraite à la fin de la saison, mettant ainsi un terme à une carrière couronnée de 4 titres en simple et 37 en double. Nicolas Mahut restera dans les mémoires comme l'un des protagonistes du match le plus long de l'histoire, perdu face à l'américain John Isner au premier tour de Wimbledon 2010. Enfin, c'est le retour des irréductibles gaulois Astérix et Obélix sur Netflix dans une mini-série animée et réalisée par Alain Chabat. Elle s'inspire de l'album de bande dessinée Le Combat des Chefs, publié en 1966, et c'est sorti ce mercredi sur Netflix donc, et disponible en 38 langues.
24 heures en France. Mathis Limano.
Le plastique, c'est fantastique. En tout cas, pour nos invités culture, le collectif congolais Fulu Miziki transforme les plastiques en instruments et les déchets en musique afro-futuriste. Depuis sa création il y a plus de 10 ans, Fulu Miziki se fait le porte-voix d'une planète en crise écologique, tout en secouant les dance floors du monde entier. À l'heure où le monde vacille, Fulu Miziki s'apprête à faire danser l'Europe avec une tournée de 34 dates. José Marinho revient sur la genèse de ce groupe avec le chanteur de boule Bokungako.
De boule Bokungako, bonjour.
Bonjour José.
Fulu Miziki se définit comme un collectif éco-friendly, afro-futuriste punk. Qu'est-ce que ça veut dire?
Nous, on définit ça comme des gens qui ont eu l'idée de rechercher dans des poubelles pour préserver la terre par la destruction des déchets. Nous, on a eu l'idée de rassembler ces déchets et de faire des instruments à notre manière pour jouer de la musique. Si on a fait ça, c'est parce qu'on a vu qu'il y a beaucoup de gens qui négligent notre planète. Et là, ça nous tue. Il y a des dérèglements de partout dans la nature.
D'après les rumeurs, vous-même, vous faites les poubelles à Kinshasa pour créer vos instruments, c'est vrai?
Non, nous, on ne fait pas les poubelles. Nous, on cherche dans des poubelles que les gens ont déjà fait quand on était des gamins. On crée des instruments, la musique avec des marmites, des choses récupérées d'un peu de partout. Même les costumes, comme maintenant, là, en 2025, on a des costumes avec des déchets, des plaquettes électroniques.
Du boule Bokungako, c'est une formation qui n'est pas du tout classique et vous avez créé le twerkanda. Comment décrirez-vous ce genre musical?
Il y a la musique de chez nous du Congo, la rumba, il y a la musique de l'Amérique, il y a la musique aussi de l'Europe. On a fait un mixage un peu de tout ça.
Et vos chansons, de quoi parlent-elles concrètement?
On encourage les jeunes et les gens de faire de leur mieux pour survivre, parce que tu vois, si tu ne travailles pas, tu ne vas pas manger. L'homme doit manger à la sueur de son front, c'est ce que nous on a fait. Il y a des chansons qui encouragent les gens à recycler les déchets qu'on jette. On a une chanson qu'on chante Bopeto, Bopeto, Tolongo la salité, Bopeto, Bopeto, Tolongo la salité, Bopeto, Bopeto. C'est ça, on dit la propreté, il faut enlever les saletés. Si vous n'enlevez pas les saletés, il y aura la pollution, il y aura des maladies, il y aura plein de choses qu'on même on connaît pas. Bopeto.
Bopeto, Bopeto, Tolongo la salité. Bopeto, Bopeto, Tolongo la salité.
de Bulbo Kungako, est-ce que le message sur la préservation de la planète est bien entendu par votre public, notamment en RDC, ou est-ce encore une bataille qui continue?
C'est une bataille qui continue, on continue, on a l'espoir. C'est notre combat, vraiment, c'est ça. On s'occupe plus de la nature. C'est ça qui nous a causé du tort sur la Terre. C'est à cause de ces déchets-là qui nous fait défaut de vivre paisiblement dans notre planète.
Pour terminer, de Bulbo Kungako, avec votre message radical sur la protection de la nature, avez-vous rencontré des résistances dans votre tournée européenne en ce moment?
Non, on n'a pas trouvé quelqu'un qui s'oppose à notre idée. Il y a des gens qui nous encouragent de transmettre aussi aux enfants, comme souvent on fait ça. On crée des instruments avec et aussi la musique. Parce que l'avenir de demain, c'est ces enfants-là qui sont encore jeunes. Il faut qu'ils apprennent de recycler des déchets.
De Bulbo Kungako, merci.
Merci à vous, José.
Foulou Miziki en concert le 22 mai à Marseille au festival The Echo, puis une tournée à travers l'Europe jusqu'en octobre. Et si le 1er mai rime avec Muguet, c'est avant tout un jour de lutte pour les travailleurs et les travailleuses. On s'intéresse à une problématique propre aux professions libérales, la question du congé maternité. Exemple chez les avocats, 17% d'entre elles, les avocates, ne prendraient pas leur congé maternité contre 10% dans les autres professions. Mise au placard, licenciement, perte de clients, la maternité est un parcours difficile pour ces avocates. C'est le sujet de notre reportage France avec Louis Cal.
Dans la 13e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris, l'atmosphère est tendue. Une vingtaine d'avocats et avocates, robes noires sur le dos, sont venus soutenir Lola Delage. Cette avocate demande un renvoi d'audience, c'est-à-dire le report du procès sur lequel elle doit intervenir, car elle est enceinte. Manon est l'une de ses amies.
Ma consoeur, pour des raisons médicales, elle a dû commencer son congé plus tôt que prévu. Elle en a visé dès que possible le président de la chambre correctionnelle concernée, qui lui a indiqué qu'il fallait qu'elle se prépare à ce que cette demande de renvoi soit rejetée et que son client soit jugé sans elle.
Lola Delage est absente depuis le déclenchement de son arrêt maternité. Alors c'est sa consoeur, Sophie Allard, qui plaide pour elle. L'audience est mouvementée. Le représentant du parquet s'agace. Selon lui, Lola Delage a gardé le dossier malgré son arrêt pour continuer à toucher de l'argent. Les avocats se lèvent, indignés. Le report de l'audience est finalement accepté, mais pas d'explosion de joie chez les avocats. À la sortie de l'audience, Sophie Allard semble lessivée.
C'est la pire audience de ma vie. En fait, aujourd'hui, en 2025, on est en train de nous dire qu'un arrêt maternité, et encore plus pathologique, ne justifie pas un renvoi. J'ai pas 10 ans de barre, j'ai pas 20 ans de barre, mais de mon expérience, je n'ai jamais vu un renvoi refusé lorsqu'un confrère fait état d'une problématique médicale.
Lola Delage n'était pas présente, mais ses collègues lui ont raconté l'audience. Elle est sous le choc.
À la base, c'est peut-être un peu naïf de ma part, j'ai pas imaginé que ça allait poser de difficultés. Je comprends pas que ce soit pas un motif légitime de renvoi et qu'on doive se justifier et venir expliquer des choses d'ordre que je considère qui sont d'ordre privé à une audience. Non, c'est franchement très, très regrettable.
Le cas de Lola Delage n'est pas une première. Il y a un an, une avocate a perdu les os et fait une crise d'épilepsie en pleine audience au tribunal de Paris. La raison, le renvoi de son audience avait été refusé. Pour Chloé, avocate, il y a un problème de sexisme au sein de l'institution et faire partie d'une profession libérale n'arrange rien.
Il faut savoir que très peu d'avocates sont salariés. Quand on est libéral, on n'est pas protégé par le droit du travail et donc il y a ce risque d'être licencié du jour au lendemain. Il y a aussi le sujet de comment on garde ses clients. Si on est arrêté pendant 4 mois, on a besoin de mettre en place un certain nombre de mesures. Et une mesure simple, c'est déjà de dire, quand il y a un dossier qui tombe pendant cette période qui est quand même courte, qui est celle du congé maternité, le renvoi, il doit être absolument de principe, sauf situation exceptionnelle.
Cette situation la touche personnellement. Chloé est enceinte de quelques mois.
Un reportage RFI signé Louis Cal à Paris, il est minuit 19.
Le journal des Outre-mer.
Et 9h19 à Nouméa, Manuel Valls est arrivé la nuit dernière en Nouvelle-Calédonie. Énième déplacement dans le Pacifique pour le ministre des Outre-mer. Bonsoir Benoît Ferrand.
Bonsoir. Le séjour de l'ancien Premier ministre sera long, une semaine et deux jours, pas moins, pour tenter d'éclaircir l'avenir du Caillou. Véronique Betz.
Manuel Valls est arrivé cette nuit, il repart le 8 mai. Une fois qu'on a dit ça, c'est à peu près tout ce qu'il y a de concret. Ce qu'on sait, c'est qu'il va y avoir des bilatérales, donc dès cet après-midi, ce sont les partis politiques locaux qui l'ont annoncé. Ce soir, Manuel Valls va répondre à nos questions à 19h30 avant d'entamer la première plénière de ce voyage. Ce sera un peu après 20h. Pour le reste, c'est très flou. Dans la série des bruits de couloir, on parle depuis plusieurs jours d'un déplacement à Marais. Donc ce sera dimanche le 4 pour les commémorations de la mort de Yewane Yewane, assassiné avec Jean-Marie Tjibaou il y a 36 ans. Ça n'est pas confirmé encore. Autre déplacement envisagé, le ministre aimerait, semble-t-il, aller en province nord pour rencontrer Paul Nayaoutine. Mais selon nos informations, à ce stade, aucune rencontre, là encore, n'a été actée. A priori, ce qu'on sait, c'est qu'il n'y aura pas de plénière demain, le 1er mai, ni ce week-end. Tout devrait reprendre lundi. Il est même question, mais là encore, rien n'est confirmé, Lorelai, que le ministre rassemble tout le monde dans un endroit secret pendant plusieurs jours et hors Nouméa. Le ministre a annoncé qu'il sera question de la citoyenneté, du corps électoral, du lien avec la France et du droit à l'autodétermination. Il l'a dit cette semaine, l'État va prendre ses responsabilités. Sous-entendu, les politiques locaux vont devoir faire pareil. Chacun des deux camps dit qu'il est prêt à discuter, mais personne ne semble revenir sur les fondamentaux. Demain, le FLNKS organise un bureau politique pour statuer de la suite à donner. Les non-indépendantistes disent de leur côté qu'ils pourrait ne pas signer d'accord. Autant dire que la marge de manœuvre est mince. Rendez-vous le 8 mai pour voir le résultat.
Le programme complet de la visite ministérielle a finalement été dévoilé ce mercredi avec la confirmation d'un déplacement en province nord jeudi et aux îles Loyauté ce dimanche. Direction maintenant la mer des Caraïbes et un tout autre sujet. Malgré les perturbations liées au mouvement social contre la vie chère, le bilan de la saison des croisières 2024-2025, saison qui s'est achevée le 20 avril dernier, s'avère finalement plus que positif en Martinique. Précision Claude Gracien.
Avec un total qui approche les 451 000 passagers accueillis, les chiffres sont en progression de 11% par rapport à l'an dernier, fait savoir le grand port de Martinique. Ses responsables se frottent les mains car du coup, notre île franchit pour la première fois la barre des 450 000 passagers. Il y a eu un peu moins d'escales, mais les bateaux qui sont venus avaient une plus grande capacité de passagers. Le nombre de passagers en transit a également connu une hausse. Elle est de plus de 6% par rapport à la saison précédente. En fait, la saison qui vient de s'achever est celle un peu des records, puisque sur les 10 ans écoulés, c'est la saison 2017-2018 qui se distinguait à l'époque. Elle avait connu un nombre exceptionnel d'escales à cause des modifications d'itinéraire imposées aux compagnies par les dégâts causés par l'ouragan Irma sur de nombreux ports caribéens, on s'en souvient.
Retour en Nouvelle-Calédonie pour terminer. La Calédonie, dont l'exploration et l'exploitation des grands fonds marins sera interdite pendant au moins un demi-siècle. La décision a été adoptée ce mardi par une majorité d'élus du Congrès local, à la grande joie, évidemment, des organisations environnementales. Charlotte Mestre.
2 ans qu'il attendait ce vote des élus. C'est donc très heureux, selon ses propres mots et grand sourire aux lèvres, que le représentant du WWF a quitté le Congrès hier. Il faut dire que le moratoire adopté va bien plus loin que les 25-30 ans préconisés par les associations environnementales consultées lors de la rédaction du texte. C'est donc pendant 50 ans jusqu'en 2075 que seuls les scientifiques pourront sonder les 1,3 million de kilomètres carrés du parc de la mer de Corail pour savoir ce qu'on y trouve à plusieurs milliers de kilomètres sous la surface. Un non-sens pour l'intergroupe Les Loyalistes qui plaidait pour une autorisation de l'exploration et un moratoire de 10 ans. Le seul moyen, selon les élus menés par Françoise Suvé, de ne pas priver les générations futures de nouvelles ressources potentielles et d'informations inaccessibles aux seuls scientifiques. Des arguments qui n'ont pas convaincu le reste de l'hémicycle. Le moratoire version XXL a été adopté à 32 voix contre 10 abstentions. Les nodules et les poissons des grands fonds sont donc tranquilles pour le moment.
Fin de cette édition. Bonne soirée.
Merci à vous, Benoît Ferrand, et bonne soirée.
Le Conseil Santé avec Sumo Assurance.
Vous êtes bien sur Radio France Internationale. Merci de votre fidélité. Restez avec nous. 24 heures en France, ça continue. Et dans moins d'une heure, on vous retrouve pour Priorité Santé, Caroline Paré.
Aujourd'hui dans Priorité Santé, 100 jours de présidence Trump avec nos invités épidémiologistes, spécialistes des infections, chercheurs. Nous allons parler des conséquences pour la santé des Américains comme pour la santé mondiale de cette politique de rupture. Licenciement massif, démantèlement d'agences stratégiques pour l'aide et la prévention, dénigrement de la science. Parmi nos invités, Victor Rodwin, c'est un spécialiste des politiques de santé aux États-Unis. Il enseigne à la Wagner School of Public Service de l'Université de New York. Après 100 jours sous Trump, quel changement pour la santé des Américains ?
Eh bien, les effets ne sont pas encore entièrement ressentis, mais ça va. Sur le plan du discours, on sait très bien ce qui va se passer, mais la plupart des Américains ne réalisent pas encore parce que ça ne les est pas encore touchés. Mais ça va venir d'ici, je dirais, 3 mois, 6 mois, ça va s'empirer. Si vraiment toutes ces coupures annoncées sont effectués. Et déjà, il y a une réduction de la force de travail et une coupure des budgets. Un tiers du budget du ministère de la Santé, du HHS, a été coupé. 44% du budget du CDC a été coupé de 9,2 à 5,2 milliards de dollars.
Trump menace pour la santé mondiale, conséquence pour le financement, la prévention des infections. Quel impact pour la vaccination à l'échelle mondiale et pour les partenariats internationaux de recherche médicale, le regard aussi du président de l'INSERM, le professeur Didier Samuel, de l'épidémiologiste Antoine Flao. C'est à retrouver dans Priorité Santé, 9h10, 1h10, temps universel, et bien sûr en podcast sur l'appli RFI Pure Radio.
Et rendez-vous est pris. Merci Caroline Paré. Ainsi se referme 24 heures en France. Merci à Fabrice Violet à la réalisation, à la rédaction chef Loïc Buissière. Restez avec nous sur RFI. Dans 3 minutes, c'est le retour de l'actualité africaine avec Zéphirin Quadio à la une. Les 100 jours de Donald Trump à la Maison Blanche et l'impact sur le continent africain. Mais avant, on fait un tour à New York. Et la bourse, c'est avec vous, Pierre-Yves Dugas.
Grâce à un redressement en fin de séance, le Dow Jones arrache 142 points et revient à 40 669. L'indice du Nasdaq recule de 15 points et retombe à 17 446. La première estimation de la croissance aux États-Unis au premier trimestre est négative, soit moins 0,3% en rythme annuel. Il s'agit de la première contraction trimestrielle aux États-Unis depuis 3 ans. La nouvelle, toutefois, est moins inquiétante qu'il y paraît, car la contraction résulte largement d'une forte poussée des importations, résultant elle-même d'achats de précaution de la part d'entreprises et de consommateurs voulant éviter les hausses de prix engendrées par les surtaxes à l'importation. Les importations elles-mêmes se sont ainsi envolées au rythme annuel de plus de 41%. Par ailleurs, l'investissement et la consommation tiennent bon, en particulier les achats d'automobiles au mois de mars. Mais là encore, il pourrait s'agir d'achats préventifs destinés à éviter les hausses de droits de douane largement attendues. La réaction du marché obligataire en tout cas est positive, le rendement du T-bond à 10 ans retombe à 4,15. On y voit aussi le signe d'un ralentissement inattendu de l'inflation sous-jacente au mois de mars, reflété par l'indice des prix des dépenses personnelles de consommation qui est inclus dans les chiffres du PIB qui ont été publiés tout à l'heure. L'euro retombe à 1,1325, le baril américain de pétrole perd près de 4% et revient presque à 58 $. La peur d'une récession mondiale déclenchée par des guerres commerciales sévit toujours sur les marchés pétroliers. Grâce à un joli redressement en fin de séance, le Dow Jones arrache 0,4% et le Nasdaq ne recule que de 0,1%.
Merci Pierre-Yves Dugas.
Bonjour, c'est Juan Gomez. Au Mali, 5 ans après le coup d'État, la concertation nationale organisée par la junte propose de prolonger la transition, de nommer le général Goïta président de la République pour un quinquennat renouvelable et de dissoudre tous les partis politiques. On en parle.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Retrouvez Appel sur l'actualité avec Banque Atlantique à partir de 8h10 TU.
À demain sur RFI.
Radio Foot International.
À 10 minutes de la fin du temps réglementaire, le Real était toujours mené 3-1. Finalement, Étienne Moati, qu'est-ce qui a fait craquer la Real Sociedad ?
La force de l'habitude.
La force de l'arbitrage, non, pardon.
Non, plus de l'habitude.
Nabil. Radio Foot International.
Bah, quand on perd contre le Real, en général, on dit toujours.
On a un argument tout près.
Du lundi au vendredi à 16h10 et 21h10 TU sur RFI.